Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Changement de majorité en Italie avec le même président du Conseil, Giuseppe Conte. La nouvelle alliance entre les 5 étoiles et le Parti démocrate est un échec pour le patron de la Ligue, Matteo Salvini. Dossier dans ce journal avec Isabelle Laberi et notre invité Marc Lazare, grand spécialiste de la politique italienne. La Russie pourrait libérer le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov dans les prochains jours. Une libération qui s'inscrirait dans le cadre d'un échange de prisonniers entre Kiev et Moscou. Les explications de Claude Bruyot. La mort de Michel Aumont, l'un des plus célèbres au second rôle du cinéma français. Michel Aumont, c'était aussi et surtout un homme de théâtre. Jacqueline Pétrose reviendra sur la très riche carrière du comédien. Il avait dirigé un gouvernement très marqué à droite, dominé par la Ligue de Matteo Salvini. Le voilà désormais à la tête d'une coalition recentrée à gauche. Giuseppe Conte a été chargé aujourd'hui de former le prochain gouvernement italien. Les antisystèmes du mouvement 5 étoiles sont toujours là, mais le Parti démocrate de centre-gauche a remplacé la Ligue classée à l'extrême droite. Matteo Salvini va donc quitter le pouvoir, mais le futur ex-ministre de l'Intérieur prépare déjà son retour, Isabelle Laberi.
Il ne peut pas accepter d'être hors-jeu, Matteo Salvini. Alors cet après-midi, dans l'une de ses vidéos live qu'il aime tourner sur les réseaux sociaux, il se montre combatif, tout sourire, devant un grand ciel bleu.
Buongiorno, 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 amici, amici.
Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça, dit-il. Vous croyez que j'ai peur d'être dans l'opposition quelques mois? Je ne laisserai jamais tomber.
Mai.
Jamais.
Mai.
Jamais.
Dopo qualche minuto.
Le leader populiste parie sur un effondrement du prochain gouvernement et veut croire à de nouvelles élections. Il sort le carton rouge, parle de vol de la démocratie, de gouvernement contre nature et de dirigeants affidés à Bruxelles. Il est vrai que l'exécutif européen ne cache pas son soulagement à voir l'eurosceptique Salvini quitter le terrain. Ce matin, Jean-Claude Juncker a même envoyé un message de soutien à Giuseppe Conte alors qu'il commençait à peine ses consultations. L'Italie joue un rôle central dans la famille européenne, a dit le président de la Commission. Nous comptons sur vous. Le patron de la Ligue, lui, a déjà lancé sa contre-attaque. Un grand rassemblement à Rome le 19 octobre, une journée de la fierté italienne. Demain, il ne prendra pas la peine d'accompagner les délégué de son parti pour ne pas avoir à croiser le nouveau chef de gouvernement.
Isabelle Laberi, envoyée spéciale en Italie, invitée de ce journal Marc Lazare, directeur du Centre d'histoire de Sciences Po Paris, grand spécialiste de l'Italie. Bonsoir.
Bonsoir.
Marc Lazare, les 100 000 adhérents du mouvement 5 étoiles doivent encore approuver cette nouvelle coalition avec le Parti démocrate. C'est une formalité ou bien le résultat de cette consultation en ligne est incertain?
Il y a un peu de suspense, hein, parce que le mouvement 5 étoiles est un mouvement qui utilise beaucoup une plateforme. D'ailleurs, elle s'appelle Rousseau, hein, du nom de Jean-Jacques Rousseau. Et on ne sait jamais trop quelle va être la réaction des membres, d'autant plus que beaucoup d'adhérents du mouvement 5 étoiles sont hostiles au Parti démocrate. Ils haïssent le Parti démocrate. Donc, il y a une petite incertitude, mais en même temps, c'est une plateforme qui n'est pas si démocratique que cela, parce que très souvent, on ne sait pas trop comment elle est organisée. Elle relève d'une structure privée qui est dirigée par le fils de M. Casaleggio, qui a été un des fondateurs avec Beppe Grillo, justement, du mouvement 5 étoiles, et en général ça ne faisait que confirmer les décisions des dirigeants. Mais enfin, il faudra attendre effectivement la semaine prochaine de voir le résultat de cette consultation. Il y a une autre incertitude aussi sur la composition de ce gouvernement, c'est le vote du Sénat, parce qu'il manque au Parti démocrate et au mouvement 5 étoiles 2 à 3 sénateurs pour obtenir la majorité. Donc il faudra convaincre des non-inscrits.
Pourquoi cette haine des militants du mouvement 5 étoiles pour le Parti démocrate? Quelles sont finalement les divergences idéologiques entre les deux formations?
Alors la détestation du mouvement 5 étoiles du Parti démocrate est liée à l'origine même de ce mouvement, qui est un mouvement anti-système qui critique tous les partis politiques, et particulièrement le Parti démocrate, qui est accusé premièrement d'avoir été au pouvoir de 2013 à 2018 avec le gouvernement d'Enrico Letta, de Matteo Renzi et de Paolo Gentiloni, donc d'avoir fait une politique d'austérité, une politique selon eux commandée par la Commission européenne, même si le mouvement 5 étoiles actuellement est en train de changer sa position sur l'Europe. Et puis deuxièmement, c'est pour eux le symbole d'un parti de la corruption. Il ne faut jamais oublier qu'un des grands moteurs du mouvement 5 étoiles, c'est l'honnêteté. Et donc ils critiquent fortement le Parti démocrate à cet égard. Alors, il y a des désaccords entre eux, maintenant, profonds, et il y a des points d'accord. Les points d'accord, c'est les politiques sociales, la nécessité de faire des politiques sociales, lesquelles, comment, ça reste à déterminer, la nécessité de faire des investissements sur les questions de l'éducation et de la santé. Ça, c'est un élément tout à fait important. Et puis, sans doute, donc, une politique plus ouverte à l'Europe, car le mouvement 5 étoiles a évolué. N'oublions jamais qu'au Parlement de Strasbourg, les élus du mouvement 5 étoiles ont voté en faveur de la présidence de la Commission européenne de Mme Ursula von der Leyen.
Et sur les désaccords, il y a notamment la question migratoire.
Alors ça, c'est un des sujets qui est un sujet de désaccord à la fois entre le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles et à l'intérieur des deux partis. Pour résumer, vous avez d'un côté des gens qui sont sur des positions de fermeté, et c'est ce qui explique par exemple que le mouvement 5 étoiles a suivi les propositions de Matteo Salvini, et puis au sein même du mouvement 5 étoiles, des gens qui étaient plus ouverts aux migrants. Et c'est la même chose au sein du Parti démocrate. Il faut qu'ils trouvent des compromis pour essayer de gouverner ensemble, car quelle est leur hantise fondamentale ? C'est que si jamais ils n'arrivent pas à constituer un gouvernement, la seule possibilité qui reste au président de la République, M. Mattarella, c'est de dissoudre la Chambre des députés et du Sénat et de convoquer des élections. Et ça, c'est la hantise, parce que c'est presque la victoire de Matteo Salvini à Sirouet.
Marc Lazare, Matteo Salvini, le chef de la Ligue, parie sur une chute rapide du gouvernement, mais est-ce qu'il n'a pas commis là sa première erreur politique majeure ?
Incontestablement, il a commis sa première grande erreur politique majeure, pour reprendre votre expression. Lui qui était en ascension, qui semblait presque une irrésistible ascension, a voulu accélérer le tempo politique, il a voulu obtenir la démission de Giuseppe Conte, il a voulu obtenir, il l'a obtenu d'ailleurs, la convocation extraordinaire du Sénat, et il a voulu faire pression sur le président de la République pour obtenir des élections anticipées. Il n'a pas obtenu ça, et il a négligé deux points importants. D'un côté, le fait qu'il y a des règles institutionnelles en Italie, et qu'on ne peut pas les subvertir. Et deuxième élément, il a négligé ce que j'appelle moi le TSS, tout sauf Salvini. Et effectivement, il se retrouve dans une position difficile. Alors il y a deux hypothèses à mon sens. La première, c'est celle qui justement fonde l'accord entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate. Essayons de constituer un gouvernement, essayons de faire en sorte qu'il dure, parce qu'on rejettera Matteo Salvini dans l'opposition, et il va être dans une situation d'opposition stérile, il va s'user, il va perdre de sa popularité. Puis il y a une autre hypothèse, c'est que Matteo Salvini soit convaincu que ce gouvernement n'arrive pas à régler un certain nombre de questions, notamment les questions sociales, que la situation de l'Italie stagne, voire empire, et que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, à la fin de la législature, il apparaîtra non seulement comme le seul opposant, mais comme le grand sauveur de la patrie italienne.
Comment vous expliquez cette erreur majeure de Matteo Salvini ? Est-ce que c'est son arrogance qui l'a amené à commettre ce faux pas ?
Je pense que oui. Je pense qu'il a été pris de la démesure, ce que les Grecs appelaient l'oubris, que voyant les résultats aux élections européennes, voyant ses sondages, pressé aussi par des membres de la Ligue très puissants au sein du parti, les présidents des régions très riches de la Lombardie et de la Vénétie, qui n'en peuvent plus de l'alliance avec le mouvement 5 étoiles et qui veulent plus d'autonomie, inquiets aussi par les enquêtes qui démontrent que son parti a été financé par les Russes, soucieux de faire une loi de finances à sa mesure, à sa main, parce que son idée c'était gagner les élections politiques, avoir donc en quelque sorte l'onction du suffrage universel, se retourner vers Bruxelles et dire « vous ne pouvez pas nous traiter comme vous avez traité la Grèce, parce que j'ai eu l'onction du suffrage universel, je suis la 3e puissance économique de l'Union européenne, je suis un des pays fondateurs de l'Union européenne et je suis la 2e puissance industrielle. » Donc c'était ça son calcul, et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois depuis qu'il a pris la tête de ce parti en 2013, un certain nombre de voix se sont exprimées au sein de la Ligue pour dire « Matteo Salvini a commis une erreur et il ne nous a pas écouté, il a agi trop seul. »
Marc Lazare, merci. Je renvoie à votre dernier ouvrage « Peuplecratie, la métamorphose de nos démocraties » paru en mars dernier chez Gallimard. Ouvrage co-signé avec l'universitaire italien Ilvo Diamanti.
Merci à vous.
Il y a comme un parfum de détente entre l'Ukraine et la Russie depuis l'arrivée au pouvoir à Kiev du comédien Volodymyr Zelensky. Moscou s'apprêterait à libérer le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, condamné à 20 ans de prison pour terrorisme et trafic d'armes. Sentsov avait été arrêté en mai 2014 en Crimée, alors qu'il dénonçait l'annexion de la péninsule par la Russie. Sa libération s'inscrirait dans le cadre d'un échange de prisonniers. Le cinéaste a d'ores et déjà quitté le camp du Grand Nord russe, où il était interné. Claude Bruyot nous appelle de Moscou.
Le transfert d'Oleg Sentsov à la prison moscovite de Lefortovo n'est pas commenté officiellement, mais cette décision est à mettre en parallèle avec la libération hier par Kiev du journaliste ukraino-russe Kirilo Vyshinsky, réclamé depuis 1 an et demi par Moscou. Ce geste d'ouverture des Ukrainiens vers la Russie ressemble au début d'un processus d'échange de prisonniers évoqué par Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, le nouveau président ukrainien, lors de leur conversation téléphonique du mois dernier. dernier. Les observateurs neutres ici estiment que dans ce contexte du changement de pouvoir en Ukraine et de la nécessité pour la Russie de faire un geste vis-à-vis des Occidentaux, il ne peut s'agir alors d'un simple échange de prisonniers. À partir de là, le retour d'Oleg Sentsov à Moscou s'intègre fort probablement dans ce processus. Cet échange, qui s'accompagnerait évidemment d'un retour conséquent de prisonniers d'origine russe dans leur pays, s'il se confirme, marquerait certainement le premier succès diplomatique du jeune président Zelensky, appuyé dans ses démarches par la diplomatie française et notamment la volonté d'Emmanuel Macron de se rapprocher de la Russie de Vladimir Poutine.
En France, que pensent les responsables religieux de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes? L'Assemblée nationale a écouté aujourd'hui les représentants des cultes catholiques, protestants et juifs. Le Conseil français du culte musulman, également invité, n'était pas représenté. Les trois dignitaires présents se sont exprimés devant la commission spéciale de l'Assemblée sur le projet de loi bioéthique. Et sans surprise, ils contestent un texte qui aboutirait, selon eux, à la disparition du père. Le reportage de Rosalie Lafarge.
Accepter de dire mère et mère, cela revient à faire disparaître le père. Voilà l'inquiétude principale du grand rabbin de France. Pour Raïm Korsia, le texte va trop loin.
Il y a une grande différence entre subir la perte d'un parent et organiser une société avec des enfants dont on sait pertinemment dès le départ qu'ils n'auront pas de père, c'est-à-dire la figure paternelle. C'est vouloir fonder un autre type d'humanité où on insère dès le départ une blessure, un manque.
Et s'ils ne sont pas d'accord sur tout, c'est au moins un point qui rassemble le grand rabbin de France et l'archevêque de Rennes, Pierre Dornelas.
Je pense qu'il est important que les politiques disent ce qu'ils entendent, vraiment. Ceux et celles qui pensent qu'un père est nécessaire dans la vie structurante d'un enfant et d'une famille.
L'entendre, oui, la rapporteure du projet de loi, Coralie Dubost, est même à l'origine de l'audition des représentants des cultes. Le comprendre, c'est autre chose pour la députée La République En Marche.
Oui, l'enfant a besoin d'une altérité pour se construire. Est-ce que l'altérité, c'est strictement un couple parental hétérosexuel? La réponse est non. Il y a d'autres types d'altérité. Quand vous avez un projet parental seul, choisi, réfléchi, c'est forcément en pensant à l'altérité que vous allez pouvoir offrir à votre enfant parmi votre cercle d'amis, votre cercle familial, à l'école, à la crèche, etc. Il y a d'autres référents adultes qui vont offrir cela. On n'est pas dans la situation où l'on subit un abandon qui peut nous plonger dans une précarité. Ce sont des situations qui sont très différentes.
Après les religieux, les députés de la commission spéciale poursuivent leurs auditions pendant encore une semaine avant l'arrivée du texte dans l'hémicycle le 23 septembre.
Rosalie Lafarge, merci. Trois dirigeants de Génération Identitaire condamnés à 6 mois de prison ferme par le tribunal de Gap. Au printemps 2018, le mouvement avait organisé une opération anti-migrants au col de l'Échelle dans les Hautes-Alpes. Avec 2 hélicoptères et des véhicules 4x4, Génération Identitaire s'était vanté d'avoir surveillé la frontière franco-italienne et même intercepté des migrants. Ce soir, les trois condamnés dénoncent, je cite, un jugement politique. Ils vont faire appel. C'était l'un des plus grands second rôles du cinéma français. Michel Aumont est mort hier à l'âge de 82 ans. Il aura tourné des dizaines de films sous la houlette des meilleurs réalisateurs, de Joseph Losey à Bertrand Tavernier en passant par Claude Lelouch. Et la liste est loin d'être exhaustive. Mais Michel Aumont, c'était d'abord un homme de théâtre où il jouait là souvent les premiers rôles. Retour sur une carrière exceptionnelle avec vous, Jacqueline Pétrose.
Michel Aumont, il avait une voix caractéristique, grave, modulée. Une voix qui fit donc merveille au théâtre, à la Comédie Française, où il était entré à 18 ans, il sera un harpagon sans caricature, au ton d'une modernité qui restera dans les annales.
Il y a encore une chose qui m'inquiète, la fille est jeune, comme tu vois, et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables, ne cherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût, que cela ne vienne à produire chez moi certains petits désordres qui ne m'accommoderaient pas.
Et le cinéma ne laissera pas passer son talent. Michel Deville l'engage pour La Femme en Bleu. Et Michel Aumont devient incontournable. Il tourne avec Chabrol, Zidi, Weber, Lautner, Hanau. Il sera avocat, homme de loi, commissaire, comme dans Ripoux contre Ripoux. Il sera dans tous les succès. Le Placard, L'Emmerdeur, Versailles Rive Droite, Palais Royal, Les Invités de mon père, Les 5 doigts de la main. Il excellait à varier les rôles. Un talent pour lequel, en 99, en recevant un des 4 Molières de sa carrière, il rendait hommage à sa mère, la comédienne Hélène Gerbert.
Elle a été vraiment estimée, aimée et admirée par beaucoup de gens, même si elle n'est pas devenue une vedette. C'était, je crois, une remarquable comédienne et je crois qu'elle a bien mérité son Molière.
Michel Aumont, c'était un ton élégant, détaché et plein d'humour. Il avait l'aisance des grands, dit ce soir Franck Riester, le ministre de la Culture.
Jacqueline Pétrose, merci. Le temps demain, beau et chaud en général, mais orageux en montagne, surtout sur les Pyrénées et les Alpes du Sud. Température minimale très contrastée, de 8 à 24 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 21 et 36 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.